Avant d'écouter la lecture de Colossiens 3, 1 à 4, prions notre Dieu ensemble. Notre grand Dieu, c'est toi qui nous as sortis de la mort, c'est toi qui nous as fait naître d'en haut, c'est toi qui nous as ressuscités, c'est toi qui nous as promis le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre une vie chrétienne à ton honneur. C'est donc vers toi, Seigneur, que nous nous tournons, nous et nos enfants, en te suppliant d'œuvrer dans nos âmes, dans la profondeur de nos cœurs, dans nos êtres intérieurs, pour envoyer ta parole lumineuse et salvatrice et sanctifiante, qu'elle puisse accomplir en nous l'ouvrage qu'elle doit accomplir pour nous renouveler dans une meilleure obéissance, pour nous transformer à la ressemblance du Fils de Dieu, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus. Ô Seigneur Dieu, accorde-nous ce matin de voir clairement ton grand amour et ta fidélité et cet appel que tu nous adresses à une vocation sainte. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. Fortifie-les, console-les, réconforte-les, nous t'en prions. Car nous espérons en toi. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous le prions. Amen. Écoutons ensemble Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Plusieurs chrétiens connaissent bien l'histoire de Corrie ten Boom, une chrétienne réformée, rescapée du camp de concentration de Ravensbrück lors de la Deuxième Guerre mondiale. Après avoir été délivrée de ce camp de concentration et jusqu'à l'âge de 91 ans, elle s'est promenée dans plus de 60 pays pour parler de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, cet amour si puissant qu'elle avait ressenti même dans les pires moments de sa détention dans le camp de concentration. Un jour qu'elle préparait son retour en Hollande après une tournée dans plusieurs pays, elle réserve un vol d'avion comportant plusieurs escales, Hong Kong, Sydney, Auckland, Le Cap, Tel Aviv et Amsterdam. Et l'employé lui demande « Quelle est votre destination finale? » Et elle répond « Le ciel. » L'employé lui demande « Comment est-ce que ça s'écrit? » « L-E-C-I-E-L. »« Ah! » répond l'employé. « Je ne vous demandais pas ça, ce n'est pas ce que j'avais à l'esprit, je ne pensais pas à ça. » Et Corrie ten Boom répond « Bien moi, je pensais à ça et je pense souvent au ciel. » Et je vais vous dire, inutile de faire une réservation pour le ciel, j'ai déjà mon billet. « Vous avez déjà votre billet pour le ciel? Comment l'avez-vous obtenu? » Il y a environ 2000 ans, quelqu'un me l'a payé. Je n'ai eu qu'à l'accepter. Mon bienfaiteur s'appelle Jésus-Christ et il a payé mon billet en mourant sur la croix pour mes péchés. « Je pense au ciel, » disait-elle. « Je pense au ciel » et elle y pensait souvent et elle y pensait beaucoup. Est-ce que nous pensons au ciel? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que nous y pensons parfois? Est-ce que nous y pensons souvent au ciel? Le texte que nous venons de lire en Colossiens 3, 1 à 4 nous invite à penser à ce qui est en haut, au ciel. Les quatre premiers versets de Colossiens 3 sont appelés parfois un beau texte en or de la Bible. C'est un des paragraphes préférés de nombreux chrétiens. C'est comme un trésor particulier, ces versets-là. Il y a comme musique dans ses versets, dans ses phrases et dans son rythme qui élève l'âme vers le ciel comme avec des ailes. Je relis le verset 1 de ce beau passage. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Le tout premier mot de ce verset, le mot « si », a le sens de « puisque ». Il ne s'agit pas ici de semer le doute ou d'émettre une incertitude, mais plutôt c'est un fait bien accompli que l'apôtre Paul a expliqué dans les versets précédents au chapitre 2. Les croyants, le peuple de Dieu, c'est un peuple ressuscité. De le deuxième mot de ce verset 1, le mot « donc » introduit l'exhortation que Paul va faire en s'appuyant sur ce qu'il a dit juste auparavant. Et qu'est-ce qu'il a dit auparavant dans les versets 12 et 20 du chapitre 2? Il a indiqué que les chrétiens sont morts avec Jésus-Christ. Et il a indiqué aussi que Christ n'est plus mort, il est ressuscité, donc les chrétiens qui sont morts en Jésus-Christ sont aussi ressuscités en Jésus-Christ. Cette puissance de résurrection du Fils de Dieu a été transmise aux membres de son corps, c'est-à-dire aux chrétiens. Nous lisons chapitre 2, versets 12 et 13, regardez bien. « Vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et il vous a rendu à la vie avec lui. » Non seulement les Colossiens sont morts, mais ils sont ressuscités avec Jésus-Christ, et nous avions vu à ce moment-là ce que signifiaient ces versets. Donc, l'apôtre Paul s'appuie sur ce qu'il a dit au chapitre 2. Il dit, « Si, donc, vous êtes ressuscités avec le Christ, puisque vous êtes effectivement ressuscités avec le Christ, eh bien, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Où est le Fils de Dieu au moment même où je vous parle? » La Bible dit, « Il est au ciel, il est en haut, assis à la droite de Dieu. » Un des tout derniers versets de l'Évangile de Marc, au chapitre 16, verset 19, dit « Le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. » Notre Sauveur occupe maintenant la place suprême, la place d'honneur où il a tout pouvoir, toute autorité, il est là-haut. Il y avait des faux enseignants qui cherchaient à convaincre les Colossiens que eux, ils avaient des connaissances particulières, plus élevées, plus hautes que les autres. On a vu qu'ils avaient parlé, Paul avait parlé un peu plus tôt, du culte des anges. Mais qu'est-ce que ça vaut tout ça? Des soi-disant connaissances supérieures et un culte des anges, alors qu'on peut être en communication intime et bénie avec celui qui est assis à la droite de Dieu dans la majesté céleste. Les chrétiens de Colosse sont ressuscités avec le Christ Jésus. Jésus, lui, a quitté cette terre, il est monté au ciel. Les chrétiens sont encore sur la terre physiquement. Qu'est-ce qui doit les animer pendant leur séjour ici-bas? Que doivent-ils chercher? Paul répond, « Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire au juste de chercher les choses d'en haut? L'apôtre Paul le précise un peu au verset 2. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Le verset 2 explicite un peu le verset 1. Le verset 1, chercher les choses d'en haut, quelqu'un aurait pu dire, je suis un peu perplexe, qu'est-ce que ça veut dire au juste chercher, comment chercher? L'apôtre Paul l'explique un peu plus. Pensez à ce qui est en haut. Réfléchissez à ce qui est en haut. Méditer ce qui est en haut. Donc, ça oriente un peu davantage le sens de son exhortation. Au chapitre 1, l'apôtre Paul avait parlé de l'espérance qui est réservée aux chrétiens dans les cieux. Nous avons une espérance qui nous est réservée dans les cieux. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent ou qui disent parfois, mais on ne sait rien sur ce qui est en haut. On ne sait rien sur ce qui est au ciel. Mais elle se trompe. On sait quand même beaucoup de choses. La Bible nous révèle quand même pas mal de choses sur ce sujet passionnant du ciel. Dieu est au ciel, notre Sauveur est au ciel. Tous les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament sont au ciel. Notre cité est dans le ciel. Notre vie est là, notre héritage est là. Notre récompense est là, notre trésor est là. Au ciel, il n'y a pas de cris, de larmes, de douleurs, de deuil. La Bible nous dit quand même toutes sortes de choses très intéressantes que nous pouvons méditer avec profit. Mais l'apôtre Paul, comme il le fait depuis le tout début de son épître aux Colossiens, veut nous exhorter à penser d'abord et avant tout à Jésus-Christ, le Christ Jésus, celui qui est au ciel, qui y réside, qui règne. L'apôtre Paul ne veut pas qu'on se casse la tête pour essayer de découvrir des secrets sur la géographie du ciel ou toutes ces choses-là. Non, il veut que nous pensions au Christ Jésus, à notre Sauveur glorieux, ressuscité. Il veut que nous le contemplions, lui, que ce soit lui vraiment qui soit le sujet principal de notre réflexion, de notre méditation. Il n'y a aucun meilleur sujet pour nourrir notre méditation que celui du Christ Jésus. Et c'est un sujet qui est inépuisable. Constamment, nous pouvons découvrir davantage qui il est, comment il est bon, comment il est grand, comment il est puissant. Et constamment, nous pouvons apprendre donc à vivre dans un certain sens, dans l'atmosphère céleste, en quelque sorte. Le pasteur Robert Murray McShane a donné un excellent conseil lorsqu'il a dit « Pour chaque regard que vous portez sur vous-même, portez 10 regards sur le Christ Jésus. » Pour chaque regard que vous portez sur vous-même, portez 10 regards sur le Christ Jésus. Pensez à ce qui est en haut, et Paul ajoute tout de suite, et non à ce qui est sur la terre. Dans son livre « Le voyage du pèlerin », John Bunyan dépeint un homme qui ne veut pas regarder ailleurs que sur le sol. Il est à genoux tout le temps avec un petit râteau qu'il promène dans la poussière et la saleté. Il ne cesse de racler le sol en espérant trouver quelque chose qui va donner un sens à sa vie. John Bunyan dit « Au-dessus de cet homme, un personnage se tenait et il avait une couronne céleste. Et lui offrait d'échanger son râteau contre cette couronne. Mais l'homme ne levait pas les yeux. Il continuait à amener avec lui, avec son râteau, les brins de paille, les petits morceaux de bois et les poussières du sol. Il dit, passez-vous votre temps à creuser dans la poussière de ce monde éphémère en espérant y trouver quelque chose qui pourrait enrichir votre vie? Vanité des vanités. N'est-il pas temps que vous ajustiez vos priorités. En Philippiens 3, verset 19, l'apôtre Paul, il s'afflige, il pleure parce qu'il dit, il y en a dans l'Église qui ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ce qu'il dit littéralement. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ça ne devrait pas être la définition ou la description d'un chrétien. Quelqu'un qui ne pense qu'aux choses de la terre, ça c'est comme la définition de l'incroyant. Il ne pense qu'aux choses de la terre, mais pour nous, nous sommes appelés à des pensées différentes. Paul écrit en 2 Corinthiens 4, 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. » Donc, les plaisirs éphémères de ce monde, les désirs trompeurs qui peuvent nous habiter, les choses d'ici-bas, ce n'est pas ce qui doit être pour nous la source de notre bonheur, mais nous cherchons les choses d'en haut, nous pensons à ce qui est en haut, nous pensons au Christ Jésus, à ses attributs, à sa gloire, à ses plans, à ses desseins, à son amour, à sa puissance. Jésus est entré au ciel comme les prémices de son peuple et nous sommes en quelque sorte avec lui. Ses intérêts, c'est les nôtres, hein? Nous sommes liés avec lui, nous sommes unis à lui par la foi. Nous vivons encore sur la terre dans nos corps mortels, bien sûr, mais en Jésus, nous sommes embarqués dans une nouvelle façon de vivre. La puissance qui nous permet de vivre cette vie nouvelle nous est donnée par notre Sauveur qui est dans la gloire. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, a-t-il dit, et dans le ciel, puisque nous partageons sa vie de résurrection, eh bien, nous cherchons à penser comme lui, à vivre comme lui, à prendre plaisir de plus en plus en lui. Ce qui est sur la terre. Au verset 5, que nous n'avons pas lu, que nous allons regarder de très près dimanche prochain, l'apôtre Paul dit « Faites donc mourir votre nature terrestre. » Ce qui est sur la terre, votre nature terrestre. Et dans ce qui suit, l'apôtre Paul donne des exemples de ce que ça donne, de ce que ça fait, cette nature terrestre. Il liste des péchés, des attitudes qui sont contraires à Jésus-Christ. Donc, penser à ce qui est en haut va nous aider à faire mourir notre vieille nature terrestre. On pourrait dire que pour changer d'attitude, il faut changer d'altitude. Il faut penser à ce qui est en haut. Chercher ce qui est en haut. Et plus nous pensons à ce qui est en haut et au Seigneur Jésus-Christ, plus nous désirons mettre à mort notre vieille nature terrestre. Parce que nous devenons de plus en plus fatigués de ce qu'elle produit, cette vieille nature terrestre. Nous sommes de plus en plus fatigués de nos péchés, de nos folies, de nos manquements, de nos errements, de nos égarements. Et nous voulons donc contempler le Christ Jésus et vivre en lui de plus en plus. Il ne veut pas, il ne peut pas vivre en nous par son esprit tout en nous laissant pécher avec succès. Il veut que nous mettions à mort cette vieille nature terrestre. Donc, la vie chrétienne, pour nous, c'est un sujet de grand encouragement. La vie chrétienne se vit pour nous dans l'union avec Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de fondamental à comprendre et à vivre pour comprendre le sens de la vocation chrétienne. Plus de 165 fois dans ses épîtres, l'apôtre Paul utilise des expressions comme « en Jésus-Christ »,« en Christ Jésus », dans le Seigneur Jésus. Ça parle de cette union intime du Christ avec les chrétiens. Autrement dit, la vie chrétienne, ce n'est pas Jésus loin, 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 loin dans le ciel et moi ici, pauvre pécheur, abandonné. Non. Mais il est avec nous, nous sommes en lui, nous vivons en lui, donc nous pouvons avoir la force pour mettre à mort cette vieille nature terrestre. Mettons ça concret, chercher les choses d'en haut est quelque chose que nous nous exerçons à faire quotidiennement. Si on regarde les versets un peu plus loin, qu'on va voir aussi plus tard, quand, plutôt que de vous venger quand quelqu'un vous offense, quand vous faites grâce à la personne qui vous a offensé, comme le Christ vous a fait grâce, vous cherchez les choses d'en haut. Quand vous êtes rempli de miséricorde, de compassion, comme le Christ Jésus a eu immensément compassion de vous. Vous cherchez les choses d'en haut. Quand vous exercez la patience, comme le Christ exerce une immense patience envers vous, vous cherchez les choses d'en haut. Quand vous vivez dans la douceur, quand vous exercez l'amour, comme Dieu vous aime, vous cherchez les choses d'en haut, etc. Cherchons, vivons pour les choses d'en haut, dit l'apôtre Paul. En nous approchant du trône de la grâce, en nous courbant devant notre Sauveur qui y est assis, en vivant dans l'union avec lui par la foi, nous allons avoir de moins en moins d'intérêt pour les choses d'en bas, c'est-à-dire les cochonneries que le péché produit, la colère, l'animosité, l'orgueil, toutes ces choses-là vont avoir de moins en moins d'intérêt pour nous. Plutôt, nous allons vouloir refléter la vie de Jésus-Christ, notre Sauveur. Regardez bien le verset 3 maintenant. « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Le mot « car » nous dirige vers la motivation que nous avons pour chercher les choses d'en haut, pour penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Notre motivation, c'est parce que nous sommes morts au péché. Nous devrions avoir aussi peu de désir pour le péché qu'un mort a de désir. On ne tente pas un cadavre. Vous êtes mort et votre vie. Coudonc, on est-il mort ou on est-il vivant? Dans un sens, on est mort au péché grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Mais en même temps, nous sommes vivants d'une vie nouvelle en Jésus-Christ, une vie transformée. Nous sommes morts, mais nous avons une vie spéciale, véritable, spirituelle, impérissable dans notre union avec le Fils de Dieu. Paul écrit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Le Christ est caché en Dieu, nous sommes cachés dans le Christ qui est caché en Dieu. Vous imaginez un double rempart divin plus grand, plus fort, plus sécuritaire que celui-là. Ça nous rappelle notre Sauveur dans l'Évangile de Jean qui dit, « Personne ne peut arracher mes brebis de ma main. Personne ne peut les arracher de la main du Père. » Notre salut est hors de danger. Il est indestructible à cause de la puissance de Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ qui est en Dieu. Alors le diable ne peut pas venir détruire et saboter notre vie. Il ne peut pas venir voler notre identité chrétienne. L'apôtre Paul ici a sans doute à l'esprit quand il dit ces mots. Plusieurs passages de l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe par exemple, ou dans les psaumes, en voici quelques-uns. L'Éternel m'a couvert de l'ombre de sa main et il m'a caché. L'Éternel me protégera dans sa maison. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Seigneur, tu caches ceux qui te craignent sous l'abri de ta face. Loin des intrigues des hommes, tu les caches dans un refuge et tu les préserves des langues qui les attaquent. Étant greffé, incorporé à Jésus-Christ, étant incorporé à la vie de Dieu, la malice des hommes et du diable ne peuvent pas nous séparer de son grand amour. C'est un sujet de grand réconfort pour nous. Regardez maintenant le verset 4. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimés, nous avançons vers un avenir spectaculaire et unique. Souvent, nous l'oublions. Écoutez comment l'apôtre Jean s'emballe à ce sujet. Voyez! Quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le Christ, votre vie, dit l'apôtre Paul. Beaucoup de chrétiens dans le cours de l'histoire de l'Église ont saisi ces mots et les ont reçus comme une clé de délivrance et de libération pour eux. Le Christ, votre vie. En Philippiens 1, 21, l'apôtre Paul, il dit « Christ est ma vie ». Et ici, il dit le Christ, votre vie. Il paraîtra, ça veut dire il va revenir dans toute sa gloire. Il l'a promis. Écoutez les paroles de notre Sauveur. « Croyez en moi, je vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Parfois, nous pensons que nous sommes sur la terre des vivants, que nous nous en allons au pays des mourants, mais finalement, nous sommes sur la terre des mourants et nous nous en allons au pays des vivants. Et qu'est-ce qui va se passer pour nous lorsque le Christ va paraître? Verset dit, « Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Aujourd'hui, aux yeux du monde, que sommes-nous, nous, les chrétiens? L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 4, 13, il dit, « Nous sommes les balayures du monde. » Autrement dit, les ordures du monde. Aujourd'hui, dans le monde, très souvent, les chrétiens sont méprisés, négligés, bafoué, rejeté, maltraité, persécuté. Mais, un jour, ils vont paraître dans la gloire lorsque le Fils de Dieu va paraître et nous serons avec lui. Aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup de combats, beaucoup de misère, beaucoup de troubles, beaucoup d'angoisse, beaucoup de luttes. Mais alors, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Et en attendant ce grand jour, en espérant ce grand jour, en nous préparant à ce grand jour, eh bien, nous mettons à mort notre vieille nature terrestre. Alors qu'autrefois, dans notre vie, lorsque le péché se présentait et nous disait « Viens, suis-moi », nous disions « Oui, je te suis ». Mais ça, c'est fini maintenant que nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Maintenant, nous disons « Non, il n'y en est pas question. Non, on ne va pas retourner en arrière. Non, on ne va pas se mettre à revivre comme si nous sommes encore sous la domination, l'esclavage du péché. C'est fini. Nous avons une vie nouvelle en Jésus-Christ. Jésus est mort pour nos péchés et par sa puissance, nous mourrons au péché. Pour la vie de ressuscité que Dieu nous appelle à vivre, il y a la puissance de la résurrection. Voici ce que dit le catéchisme de Heidelberg à ce sujet. Ici-bas, nous recevons son esprit par la force duquel nous cherchons non pas les choses qui sont sur la terre, mais celles qui sont en haut, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Nous recevons son esprit par la force duquel nous cherchons ce qui est en haut. Dans notre combat contre le péché et contre notre vieille nature pécheresse, nous ne devons pas sous-estimer la puissance divine du Saint-Esprit pour changer nos vies, pour nous renouveler et pour nous porter à chercher les choses d'en haut. Cette puissance imbattable, elle est dans nos vies et elle est plus grande que nos vies. Et elle nous convainc que désormais les promesses de Dieu sont meilleures que les promesses du péché. Et par son grand amour, le Seigneur nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Oui, mais pasteur, comment vivre ça? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus concrets? Je vous en rappelle deux que vous connaissez très bien. Dieu nous a donné un livre et un téléphone. Le livre, c'est la parole de Dieu, la Bible, dès le chapitre 1. Paul avait dit, la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a fait connaître l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. La parole de vérité nous fait connaître l'espérance que nous avons dans les cieux. Et au chapitre 3, verset 16, il dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. La parole de Dieu est utilisée par le Saint-Esprit pour nous faire penser aux choses d'en haut, pour nous faire chercher les choses d'en haut, pour nous faire méditer les choses d'en haut, pour nous faire vivre en haut avec le Christ. Le téléphone, c'est la prière. Au chapitre 4, en Colossiens 4, l'apôtre Paul dit que la prière nous aide à vivre selon la volonté de Dieu. La prière nous aide à vivre selon la volonté de Dieu, parce que par la prière, nous requérons, nous implorons le Seigneur qui nous donne la puissance pour vivre selon sa volonté. La parole et la prière nous aident à vivre en cherchant les choses d'en haut, à penser aux choses d'en haut. C'est la joie de la foi. C'est le bonheur des élus. Revenez dimanche prochain, nous allons regarder dans les versets qui suivent comment beaucoup plus en détail nous pouvons vivre concrètement dans ce bonheur des élus à la gloire de Dieu. Amen.